Les matins de France Culture, Hervé Gardette.
Il est 7h42, inondations à répétition en France, température record et incendie dévastateur en Australie. Ainsi va l'actualité désormais rythmée par les épisodes climatiques extrêmes. Une réalité qui peine pourtant à engager la communauté internationale sur la voie de décisions fortes pour lutter contre le réchauffement. De ce point de vue, la dernière COP, la 25 à Madrid, a été considérée comme un échec. Christian de Pertuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine. Vous y avez fondé la chaire économie du climat et vous publiez aux éditions de Beck le tic-tac de l'horloge climatique. Alors si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on commence avec vous à évoquer l'actualité sociale et cette réforme des retraites, non pas pour vous la faire commenter sur le fond. Et moi je me disais, à quoi bon finalement se battre pour sa retraite dans une société qui est promise, nous dit-on, en tout cas c'est ce que disent certains, à l'effondrement?
Alors, je trouve que le parallèle avec la retraite est extrêmement intéressant. Et moi, je rattache ça immédiatement au mouvement des jeunes. Vous voyez que ce qui s'est produit cette année en 2019, d'un côté, on a eu une COP, vous l'avez rappelé, qui a été véritablement un échec en ce sens que même les petites avancées qu'on espérait n'ont pas pu être faites dans le cadre de la négociation entre gouvernements, des gouvernements qui sont dirigés par généralement des hommes, plutôt de ma génération que de celle de mes enfants ou de mes petits-enfants. Et au même moment, vous avez ce mouvement de la jeunesse qui commence dès le collège, hein, des jeunes de 15-17 ans, qui nous disent « Mais le réchauffement climatique, c'est pas un problème de demain, c'est un problème d'aujourd'hui. » Et pour moi, c'est ça qui est tout à fait étonnant dans le parallèle entre les retraites et le changement climatique. Je ne pensais pas du tout être interrogé là-dessus, mais puisque vous le faites, il faut quand même que je réponde.
Merci.
Si vous voulez, c'est ce côté intergénérationnel. Vous voyez, bon, et je crois que ce que nous disent les jeunes qui manifestent sur le climat, c'est que effectivement, on n'a pas le temps. Le climat est un problème d'aujourd'hui. Voyez-vous, moi, j'ai commencé à enseigner le changement climatique à l'université Paris-Dauphine en 2005. À l'époque, j'étais considéré comme un total marginal, si vous voulez, voire un illuminé. Mais à l'époque, je présentais beaucoup la question du changement climatique comme étant une problématique de développement durable. Ce que nous dit Greta Thunberg, c'est que non, c'est pas un problème de développement durable, c'est un problème aujourd'hui et maintenant.
Alors, vous évoquez la dimension intergénérationnelle, Christian de Pertuis. En général, on lui accole un terme qui est celui de la solidarité. Solidarité intergénérationnelle. Est-ce que vous considérez que le changement climatique oblige à repenser cette question, justement, de la solidarité? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que la société reste solidaire malgré les catastrophes qui nous sont promises?
Absolument.
Et qui ont déjà lieu, d'ailleurs.
Absolument. Alors, je crois que vous avez parlé tout à l'heure d'une société qui allait s'effondrer avec le changement climatique. Et moi, je pense que l'urgence climatique, ça ne signifie pas qu'on pense que la société va s'effondrer demain. Ça signifie que il faut créer de nouvelles formes d'action que nous oblige à engager le changement climatique pour que précisément la société ne s'effondre pas demain. Et j'irai même plus loin, et c'est un peu le sens de la conclusion que j'ai essayé d'écrire dans l'ouvrage, qui s'appelle « La promesse d'un monde meilleur ». Je pense que on a beaucoup de peine à démarrer cette action. On a beaucoup de peine à démarrer cette action parce que on voit bien que, en réalité, à mesure qu'on va prendre l'ampleur du défi du changement climatique, on va être obligé de remettre beaucoup de choses en question. Pas uniquement la consommation d'énergie un peu excessive que vous et moi faisons en arrivant le matin au studio en taxi, par exemple, ou le fait que ces lumières sont probablement réglées un peu trop fort, qu'on pourrait économiser un petit peu de kilowattheure. Non, ça va nous obliger.
Ces lumières sont celles du studio, hein, qui sont fortes aussi parce qu'on est filmé.
Voilà. Mais a-t-on besoin d'être filmé, si vous voulez? Alors, le changement climatique va contraindre nos sociétés à faire des changements radicaux. Radicaux en ce sens que le fondement de l'organisation de la société, c'est l'énergie qu'on utilise. Il va falloir drastiquement modifier le système énergétique et donc nos modes de production, nos modes de consommation, nos liens avec les différents membres de la société. Et ce changement, on ne peut pas le faire dans les structures actuelles. Vous voyez, donc c'est ça la difficulté. Donc il va falloir changer les structures. Et moi je pense que on n'a pas le choix. Et à mesure que l'urgence climatique va se traduire dans les événements extrêmes, les inondations, etc., nos sociétés vont être obligées de trouver de nouveaux modes d'action face au changement.
Sauf que ces catastrophes, elles sont présentes aujourd'hui et on voit bien qu'il y a une difficulté à opérer ces changements radicaux, alors soit d'un point de vue individuel, mais également à un niveau politique. Est-ce que c'est aussi, pour rester sur cette question finalement du conflit de générations, lié au fait que ceux qui sont en mesure de prendre des décisions politiques hésitent à le faire parce que ce qu'ils vont décider aujourd'hui ne se fera ressentir que dans de nombreuses années et que eux n'en profiteront pas. Est-ce que c'est une des raisons, des obstacles à la prise de décision un petit peu plus forte que ce qui existe aujourd'hui,
Christian de Pertuis ? C'est un point absolument essentiel que vous avancez. Ce qui fait réchauffer le climat, c'est le stock de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère. Ce stock, il présente une extraordinaire inertie, puisque lorsqu'on envoie une tonne de CO2 dans l'atmosphère, son pouvoir de réchauffement va agir pendant environ 100 ans. Compte tenu du stock qui est déjà envoyé dans l'atmosphère, on sait que le réchauffement climatique va se prolonger pendant au moins une à deux décennies. Et les actions radicales qu'on peut conduire aujourd'hui pour réduire les émissions de gaz à effet de serre vont mettre du temps à se répercuter sur le climat qu'il fera demain. En gros, de façon un peu schématique, le climat du monde est à peu près déjà connu durant les 2-3 prochaines décennies. C'est après 2050 que, suivant qu'on réduit massivement ou pas les émissions de gaz à effet de serre, le climat qu'on vivra sera très différent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi j'ai un petit fils qui va naître au mois de février prochain.
Et ce petit-fils,
c'est la maman qu'il faudrait féliciter plutôt que le grand-père. Hein. Mais alors, ce petit-fils, en 2050, il aura 30 ans. Vous voyez ? Donc, il commencera à avoir, lui, la possibilité d'avoir des enfants. Et il aura mon âge quelque part entre 2080 et 2090. Vous voyez ? Donc, lui, il va connaître complètement le changement que nous faisons aujourd'hui. Moi, le climat que nous ferons suivant que nous réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre, je ne le verrai pas. Donc cet aspect générationnel est très important. L'autre point, c'est que dans notre vie politique, dans notre vie économique, on est véritablement jugé sur des effets à court terme. Un mandat politique, c'est 5 ans dans le meilleur des cas. Oui, bon. Donc
il faudrait quoi ? Il faudrait rallonger la durée des mandats politiques, avoir un président qui est élu pour 20 ans.
Je pense qu'il faut absolument convaincre l'ensemble de la société que le climat ne doit pas être un facteur de polarisation, un facteur d'opposition. Ce doit être quelque chose qui modifie radicalement notre mode de prise de décision.
Oui, mais vous voyez bien la difficulté, c'est-à-dire d'en faire un discours politique, Christian de Pertuis. Parce que là, vous nous dites, en gros, même s'il y a des décisions radicales qui sont prises aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique, et on aura évidemment l'occasion ce matin de voir quelles peuvent être ces décisions, mais même s'il y a des décisions radicales qui sont prises aujourd'hui, de toute manière, on n'en verra pas les effets. C'est, même si on le comprend intellectuellement, c'est très compliqué à accepter.
C'est difficile à gérer politiquement. Alors, on en verra certaines implications, je précise. Ce qu'on ne verra pas, c'est les effets sur le climat. Mais si
c'est quand même déjà énorme.
Oui, mais il y a d'autres volets, si vous voulez, qui sont très importants. Et c'est là qu'on retourne à la question de justice. Pour aller vers une société bas carbone, qui est beaucoup plus résiliente par rapport au changement climatique demain, il faut sortir les énergies fossiles du système énergétique. Et je rappelle juste qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie utilisée dans le monde, c'est de l'énergie fossile. Ça, c'est la première des priorités. Si on avance vers cette sortie des fossiles, on va effectivement heurter de front des intérêts. Et on a parlé dans l'actualité immédiate de l'Arabie Saoudite, évidemment des pays comme l'Arabie Saoudite, mais aussi d'autres producteurs d'hydrocarbures, par exemple en Europe, la Norvège, vont être frappés directement. Donc ça, c'est le côté difficile. Mais le côté positif, c'est qu'on va développer des alternatives aux énergies fossiles, notamment des énergies renouvelables, des énergies de flux, par exemple de l'énergie éolienne, de l'énergie photovoltaïque, et que ces énergies peuvent apporter beaucoup d'autres bénéfices plus rapidement.
Sauf que ce que vous expliquez dans votre livre, Christian de Pertuis, par rapport à ce développement des énergies renouvelables, alors qui est en cours, hein, on ne part pas non plus de zéro, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a de nouvelles énergies que les autres disparaissent. Ce n'est pas parce qu'il y a eu du pétrole que le charbon a disparu. Ce n'est pas parce qu'il y a eu du nucléaire que le pétrole a disparu, et ainsi de suite.
Vous avez été un très bon lecteur. Hein. Si vous étiez étudiant à Dauphine, je pense que je vous mettrais une bonne note. Oui. Alors, le problème posé, c'est la question du temps, et c'est pour ça que j'ai appelé mon ouvrage le tic-tac de l'horloge climatique. C'est dans quel délai faut-il agir? Et voyez bien que dans le système énergétique, comme dans notre société, c'est le système économique hein, qui fonctionne comme ça. On est dans une logique de l'empilement. C'est-à-dire qu'on rajoute des nouvelles sources d'énergie sans enlever celles qui préexistent. Et la transition bas carbone, c'est une rupture majeure, c'est une rupture de logiciel par rapport à cette logique historique de l'empilement. Il ne suffit pas de rajouter des sources d'énergie renouvelables, il faut enlever les énergies fossiles. Autrement dit, il faut passer d'une logique de l'empilement, d'une logique de l'addition, à une logique de la substitution. Et ça, nos sociétés savent très mal faire. Notre société, elle est beaucoup plus habile à rentrer dans la logique du toujours plus, à rentrer dans la logique de l'accumulation, que à rentrer dans la logique de retirer des ressources. Et pour moi, c'est l'enjeu principal dans les années qui viennent, au plan international comme au plan européen. Je vous donne deux exemples. Le Green Deal européen.
Alors voilà, Green Deal européen, donc cet accord vert qui a été annoncé il y a quelques jours de cela par la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Plan massif, alors quoi, d'investissement et d'action pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
En 2050. Et pour atteindre la neutralité carbone en 2050, sans rentrer dans des détails techniques, ça veut dire qu'il faut accélérer la baisse des émissions et en 2030, il faut faire du moins 55% plutôt que du moins 40% tel qu'il est prévu aujourd'hui. Bon. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ce New Deal? Il y a trois composantes. Première composante, une composante strictement économique, il faut augmenter ce qu'on appelle le prix des quotas de CO2, donc augmenter le coût d'utilisation des fossiles pour basculer. Si demain on met un quota de CO2 à 50 euros la tonne de CO2, ben vous voyez que tout de suite les usines à charbon en Allemagne et en Pologne, elles deviennent plus rentables, donc elles vont fermer. Ça c'est le premier point, c'est un volet économique qui est assez important, même si il faut pas se dire que le prix du CO2 va faire toute la transition. Deux, il faut augmenter les investissements et dans le Green Deal, qui n'est pas encore totalement défini dans les détails, on a un certain nombre de plans, par exemple l'accélération des investissements dans les batteries pour pouvoir accélérer le transfert vers du transport terrestre électrifié. Par exemple, des investissements dans l'hydrogène. Mais le troisième point qui est très important, c'est qu'il faut désinvestir, il faut reconvertir. Et donc, il faut par exemple, dans les pays qui ont encore beaucoup de charbon, transformer les bassins charbonniers. Lorsqu'on a des usines qui fabriquent des moteurs thermiques, eh ben, il va falloir substituer des usines qui ont des moteurs thermiques par des usines qui fabriquent des batteries.
Vous voyez oui, mais là, Christian de Pertuis, vous mettez le point sur quelque chose de très important. Vous dites, dans les pays qui ont beaucoup de charbon, mais c'est compliqué justement de se dire, j'ai beaucoup de charbon dans mon sol et il faudrait que je fasse comme s'il n'existait pas. C'est le cas d'Australie par exemple, qui est un des grands pays de producteurs de charbon.
Exportateur.
Dont on voit bien, qui aujourd'hui est confronté alors à des épisodes climatiques absolument extrêmes. On a eu l'occasion d'en parler hier dans cette matinale. C'est-à-dire comment on fait pour se dire, j'ai une richesse dans mon sous-sol, je vais faire comme si je ne l'avais plus.
Eh bien, pour empêcher l'Australie d'utiliser ses ressources en charbon, mais ce sera encore plus difficile d'empêcher l'Inde et la Chine de le faire, il n'y a pas 36 000 solutions sur le plan économique. La solution de loin la plus efficace, c'est d'accroître le coût d'utilisation du charbon en mettant une taxe sur le charbon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche par les prix, le prix du CO2. Bon. Alors,
même
évidemment,
si ça, ça ne suffit pas. Alors, il y a aujourd'hui dans l'opinion un article qui se base sur une étude Natixis. Eh ben oui, mais même l'opinion, même les échos s'intéressent à ces questions. Vous voyez, finalement,
ouais,
vous avez fait peut-être des émules depuis que vous avez créé cette chaire économie climat.
Ça m'arrive même de leur faire un petit papier, ouais.
Et qui dit ceci d'ailleurs, voilà, taxer le CO2 ne permettra pas de réduire suffisamment les émissions de carbone. La fiscalité devra être complétée par des mesures de régulation et d'interdiction. Ça veut dire que même du côté des économistes, aujourd'hui, on commence à se dire le marché ne peut peut-être pas tout réguler.
Alors, j'allais y venir. Tout dépend de l'ambition qu'on a sur le niveau du prix. Hein, si vous voulez, c'est assez... Vous savez, l'économie, c'est une matière finalement assez basique que nos grands-mères maniaient assez bien quand elles géraient leur garde-manger. Hein. Si vous mettez un prix du CO2 à $500 la tonne de CO2, à peu près tous les sites d'exploitation et d'utilisation des énergies fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole ou le gaz, ne sont plus rentables. Le problème, est-ce qu'on est capable de mettre un prix à ce niveau-là?
Il est à combien aujourd'hui sur les marchés du carbone
Il est à 25 euros la tonne de CO2 à peu près.
Ça, c'est pas assez dissuasif.
Ça commence à devenir dissuasif. C'est mieux que quand il était à 6, si vous voulez, où là, ça servait vraiment à rien. Mais on estime que, effectivement, le niveau de prix qu'il faudrait pour accélérer très significativement la transition, ce sererait plutôt de l'ordre de 50 à $70. Donc un peu moins en euros la tonne de CO2. Donc si on n'est pas capable de mettre le prix à un niveau suffisant, il faut des régulations. Et j'en propose deux dans mon ouvrage sur comment accélérer la sortie des fossiles. Mais élémentaire, mon cher Watson. La première des choses à faire, vous interdisez toute construction nouvelle de centrales électriques fonctionnant au charbon. Aujourd'hui, on a arrêté de fabriquer ces centrales au charbon en Europe. On en met une nouvelle en route en Allemagne, mais elle a été construite il y a 10 ans. On continue à en fabriquer en Asie et même en introduire en Afrique. Deux, vous interdisez les permis d'exploration sur les hydrocarbures dans toutes les zones nouvelles dangereuses. On commence par exemple par la zone arctique. Hein, où aujourd'hui on continue à délivrer de nouveaux permis parce que la fonte de la glace va permettre beaucoup plus facilement d'aller creuser le sol.
Donc mais ça, c'est qui le vous? Alors, vous interdisez, Christian de Martini, c'est pas moi qui vais le faire.
On est probablement...
Et les États, on voit bien qu'ils ont du mal à le faire.
On est dans un problème, effectivement, de gouvernance. Le problème de gouvernance est assez simple au plan global. C'est que il n'y a pas aujourd'hui une force de mise en œuvre suffisante au niveau multilatéral, au niveau des Nations Unies. Je pense que ça va changer pour deux raisons. La première, c'est que la mobilisation des citoyens va un peu faire basculer les choses. Et la deuxième, c'est que le climat va sortir du petit cercle de la COP et va envahir les grandes instances multilatérales que sont l'Organisation du Commerce International, l'OCDE, le Fonds Monétaire International. Et là, la finance, qui commence à avoir la trouille, va être obligée de changer.
Eh ben, on va continuer cette discussion, si vous le voulez bien, Christian de Pertuis, après le journal. Hein, je rappelle
avec
que vous publiez Le tic-tac de l'horloge climatique, une course contre la montre pour le climat. C'est édité aux éditions Debecq.
7h-9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette.
Il est 8h20 sur France Culture. Comment faire de la politique au temps du changement climatique? Nous poursuivons notre discussion entamée avant le journal en compagnie de Christian de Pertuis. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine, que vous avez fondé dans cette université la chaire économie du climat et que vous publiez aux éditions de Beck Le tic-tac de l'horloge climatique. Alors, je pense que vous le savez, la personnalité de l'année désignée par le magazine Time comme chaque année, personnalité de l'année comme chaque année. Cette année, pour 2019, c'est évidemment, c'est pas vraiment une surprise, Greta Thunberg. Alors, je vais pas vous demander s'il faut la soutenir ou la critiquer. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de son personnage. Mais ce qui m'intéresse, moi, finalement, c'est le fond de son propos. Elle se manifeste notamment par des interpellations très vives à l'égard des dirigeants du monde entier, interventions dans lesquelles elle dénonce leur inaction. Est-ce qu'elle a raison, sur le fond, de dire que les gouvernements ne font rien pour essayer de contrecarrer le changement climatique, Christian de Pertuis?
D'abord, je pense que c'est un tout petit peu difficile de mettre tous les gouvernements du monde dans un même panier, si vous voulez. Je sais pas, on a parlé, par exemple, de plusieurs gouvernements dans ce journal depuis le début de la séquence. Je mettrais pas exactement au même niveau l'Arabie Saoudite ou la Syrie, et puis la Suède, par exemple, d'où vient Greta Thunberg, où je mettrais pas pareil l'Europe et les États-Unis, si vous voulez. Donc je crois que des degrés différents d'action face au changement climatique. Pour faire simple et rapide, moi je vois que l'Europe a effectivement assez fortement modifié ses politiques, notamment dans le secteur de l'énergie, depuis un certain temps. Et c'est pas un hasard si en Europe on est déjà à peu près à un peu moins de moins 25% sur les émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Donc on peut pas dire que l'Europe ne fait rien. Et la jeune Greta Thunberg, qui est suédoise, on ne peut pas dire que le gouvernement suédois en particulier n'a rien fait sur le changement climatique, puisque c'est probablement l'un des gouvernements qui a le plus fait, si vous voulez. Bon. Donc moi je dirais que on est dans une situation où les gouvernements ne font pas assez, et où il y a une mosaïque très différente dans le degré d'action ou d'inaction des gouvernements.
Est-ce qu'il y a par exemple un pays qui vous paraît, alors vous évoquez la Suède, mais un pays qui vous paraîtrait exemplaire de ce point de vue dans la façon dont sont articulés les différents niveaux de décision politique?
Alors, je dirais qu'il y a des morceaux d'exemplarité dans différents pays. J'en prendrai quelques-uns. Par exemple, on a cité la Suède. Bon, la Suède est un pays dans lequel on a poussé très loin la tarification du carbone via une taxe carbone domestique, qui fait que, par exemple, aujourd'hui, il est strictement impossible de mettre le moindre gramme de fossile dans un réseau de chaleur. Et 70% des ménages suédois sont chauffés par des réseaux de chaleur. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très avancé. Et
qu'est-ce que c'est un réseau de chaleur?
Un réseau de chaleur, c'est plutôt que d'avoir une chaudière par maison, vous avez une grande chaudière à l'amont et vous alimentez les différentes maisons depuis une grosse chaudière. C'est, par exemple, à Paris, vous avez la CPCU qui accorde une grande partie des foyers parisiens par un réseau de chaleur. C'est plus coûteux en investissement, hein, puisqu'il faut effectivement construire les infrastructures de transport de la chaleur, et la chaleur se transporte assez mal, mais une fois que c'est en place, ça permet effectivement d'avoir des actions plus rapides pour réduire les pollutions et réduire les émissions de CO2 en ce qui concerne le changement climatique. Autre exemple très intéressant, la Suisse a une politique extrêmement avant-gardiste sur le lien entre sa production d'électricité avec des barrages et sa distribution électrique et le développement à la fois de systèmes centralisés et décentralisés en matière d'énergie renouvelable. Autre exemple, parce qu'on ne va pas prendre que des exemples en Europe, vous avez des États en Amérique du Nord qui mènent des politiques beaucoup plus avancées que ce que promeuvent par exemple le gouvernement fédéral. Dans les pays en voie de développement, vous avez aussi des exemples extrêmement intéressants de pays qui choisissent de mieux protéger leur nature et de notamment ne pas s'engager dans des systèmes de déforestation. Hein, par exemple, vous avez les pays d'Amérique centrale, le Costa Rica est un pays qui a une vraie politique de protection de sa forêt et qui ne fait pas les dégâts qu'on voit par exemple dans les autres parties de la forêt amazonienne.
Est-ce que toutes ces mesures-là, elles peuvent s'articuler, être cohérentes ensemble, Christian de Pertuis, ou est-ce qu'il ne peut pas y avoir le risque que des décisions qui sont prises dans un pays aient des effets inattendus et pervers ailleurs? On cite toujours le cas de l'Allemagne, hein, qui avait voulu sortir du nucléaire et qui, du coup, a dû relancer sa production de charbon. Alors, je ne sais pas, on le cite tellement d'ailleurs cet exemple que peut-être qu'il n'est pas si clair que ça.
On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'Allemagne, si vous le voulez bien, parce que quand même, les auditeurs de France Culture ont le droit à une information complète. Il est vrai que lorsque on décide de fermer rapidement ces centrales nucléaires, on fait probablement pas le bon ordre par rapport au changement climatique et qu'il faudrait commencer par le charbon. Et c'est encore plus vrai au Japon du reste qu'en Allemagne. Mais la vraie raison pour laquelle on a eu une reprise de la production électrique à partir de charbon en Allemagne au milieu de l'actuelle décennie, c'est pas la sortie du nucléaire, c'est l'insuffisance du prix du CO2. C'est parce que le prix du CO2, on l'a laissé descendre très bas, et donc c'était plus rentable de brûler du charbon que de brûler du gaz. Donc c'était pas un arbitrage entre du nucléaire et du charbon, c'est un arbitrage entre du gaz et du charbon, si vous voulez. Donc on a beaucoup dit, et de façon parfois très malhonnête, parce qu'on défendait un lobby qui est le lobby du nucléaire, que la sortie du nucléaire en Allemagne était la cause de la reprise du charbon. C'est très imparfaitement vrai.
Puisque vous êtes économiste, Christian de Pertuis, il y a une donnée qui est évidemment très importante en économie, c'est le coût. Et jusqu'à quel point on peut accepter de financer la lutte contre le changement climatique au regard de quoi? Alors, au regard des effets qui vont être obtenus. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dépenser sans compter? Sans doute non. Mais comment est-ce que l'économie arrive à gérer cette question-là? Parce qu'on voit bien qu'il y a une demande d'action forte et urgente aujourd'hui.
Si vous demandez à un économiste est-ce qu'il faut dépenser sans compter, probablement que si vous répondez oui, il n'est pas économiste, si vous voulez. Mais... Donc je vais vous répondre non. Mais je vais vous répondre surtout la chose suivante. Pour la partie énergie, qui représente un peu plus de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est lié à l'énergie fossile. Pour l'énergie, il se passe quelque chose de très important. C'est qu'on a une baisse simultanée, massive, des coûts de production de nouvelles énergies renouvelables, le photovoltaïque et l'éolien. Du stockage de l'électricité dans les batteries. Pour ça qu'on commence à faire rouler des bagnoles avec des batteries, hein, c'est parce que le coût du stockage baisse. Et du coût de gestion décentralisée des réseaux intelligents. Hein, l'alliance du numérique avec la gestion des réseaux énergétiques. Nos réseaux énergétiques sont dramatiquement peu intelligents de la façon dont on les a construits jusqu'à présent. Donc cette révolution, elle fait que de plus en plus, il va être compétitif de faire du renouvelable par rapport à du fossile. Et ceci, soit de façon centralisée avec de grosses installations de renouvelables, par exemple de grandes fermes éoliennes en mer du Nord, ou d'immenses parcs photovoltaïques en Inde ou en Chine, ou de façon décentralisée sur le toit de votre maison ou sur les ombrières de votre parking. Ça, c'est une révolution majeure, et je pense que la question du financement de la production et de la distribution de l'énergie renouvelable n'est pas un problème pour le système capitaliste. Ce qui va être un problème, c'est de financer le désinvestissement des fossiles. Voyez-vous? Car notre société ne sait pas désinvestir.
Oui, mais alors du coup, Christian
Depper... On a toutes ces infrastructures qui sont liées aux fossiles, dont il faut désinvestir. Et si vous regardez, je termine juste, si vous regardez le Green Deal, vous avez des investissements qui sont prévus, le programme européen, qui sont prévus pour désinvestir, pour transformer les infrastructures fossiles. Et moi, je pense que on se trompe, on sous-estime le coût de désinvestissement des énergies fossiles.
Mais du coup, Christian de Pertuis, puisque vous évoquez le système capitaliste, est-ce que ça n'est pas le système capitaliste qui est le problème, plutôt que de vouloir qu'il s'adapte en promouvant les énergies renouvelables? Parce que très bien, alors si ça devient plus compétitif, je vais pouvoir continuer à consommer autant d'énergie que je le faisais jusqu'à présent. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire, eh ben, il faut consommer beaucoup moins d'énergie, que ce soit des fossiles ou des énergies renouvelables, et pour ça, il faut modifier, voire peut-être sortir du système capitaliste. Et là, alors, on répond comment quand on est économiste à ça?
Alors, on répond que deux choses. La première, c'est que la notion que vous introduisez est la notion de sobriété. À peu près tous les scénarios qui sont construits en projetant le système énergétique montrent qu'on n'arrive pas à sortir suffisamment des énergies fossiles si on n'est pas sobre, c'est-à-dire si on ne diminue pas nos demandes en énergie finale. Et la question qui est claire, c'est que pourquoi est-ce qu'on va être sobre en énergie et pas sobre sur les autres produits? Vous voyez, on a eu le Black Friday il y a 3 semaines, on voit qu'on a une espèce de propension incroyable, non seulement à empiler les sources d'énergie les unes avec les autres, mais aussi à empiler les biens de consommation, les services, les kilo-octets pour nos téléphones portables sur lesquels on télécharge maintenant toute la journée des images qui bougent. Vous voyez, bon, tout ça, c'est ça la question. Bon.
Bah ça c'est donc, bien lié au système capitaliste, il faut nourrir la bête, il faut de la croissance.
Ça veut dire qu'effectivement, Moi, je dirais les choses d'une façon très simple. Si on attend la fin du système capitaliste pour lutter contre le changement climatique, on ne sera jamais à l'heure. Hein. Donc, je pense
parce que vous le prévoyez à quelle date à peu près
la fin du capitalisme. Vous savez, depuis Karl Marx, il y en a beaucoup qui ont prévu la fin du capitalisme. Mais il rejaillit toujours. Hein. Donc, il a quand même une certaine capacité à rebondir. Moi, je pense que il faut pas se dire que on ne va pas subordonner l'action contre le changement climatique à la fin du capitalisme. Donc, il faut s'y engager tout de suite, et chaque fois que le capitalisme nous donne des armes, il faut les utiliser, mais on va se rendre compte que, à mesure qu'on va progresser, que le système capitaliste, fondamentalement, doit être dépassé, parce que il génère des modes de production, des modes de consommation, des modes d'accumulation des biens et services qui ne sont pas compatibles avec, non seulement le dérèglement climatique, mais plus largement avec l'équilibre du vivant. Avec le maintien de la capacité de la biosphère à régénérer les ressources. Et ça, c'est lié à la biodiversité et c'est également lié au changement climatique. C'est la partie, non pas du carbone fossile, mais c'est ce que j'appelle le carbone vivant qui concerne.
C'est quoi le carbone vivant?
Alors, le carbone vivant, c'est celui qui se transforme tous les jours via la photosynthèse, hein, en chaînes moléculaires qui nous permettent d'avoir des aliments, hein, et qui régénère la vie, si vous voulez. Bon. Et ce carbone vivant, il est très important pour le changement climatique. Il représente à peu près un quart de la question. Pourquoi un quart de la question? Parce que l'agriculture, qui est la principale activité humaine qui traite du carbone vivant, hein. L'agriculture est la première source d'émissions de méthane et de protoxyde d'azote, qui sont les gaz à effet de serre hors CO2. Mais surtout, on vise maintenant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la neutralité carbone. Et c'est quoi la neutralité carbone? Ça consiste à ramener le niveau de nos émissions à la capacité d'absorption du milieu naturel.
C'est quoi c'est important d'ailleurs à ce que vous dites, c'est-à-dire il s'agit pas de dire il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre, plus d'émissions de carbone, mais on ne produit pas plus, on n'émet pas plus que ce que la Terre ne peut absorber.
Exactement. Et comment est-ce que la Terre absorbe le CO2? Vous avez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les puits de carbone. Vous avez deux grands puits de carbone, l'océan, qui est de loin le plus grand puits de carbone au monde. Il y a beaucoup plus de carbone au fond de l'océan que dans l'atmosphère ou dans la biosphère. Et deuxièmement, le puits de carbone terrestre qui est constitué par les plantes, les arbres et les sols. Et si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut non seulement réduire nos émissions liées à l'usage des énergies fossiles, mais également préserver la capacité de la Terre, comme vous l'avez dit, du milieu naturel, pour stocker ce CO2 de l'atmosphère.
Voire augmenter cette capacité, Christian de Pertuis, alors soit par exemple en plantant des arbres, soit en imaginant de nouvelles techniques qui permettraient peut-être de capter davantage de carbone. C'est là qu'entre en jeu la géo-ingénierie. Il y a quand même cette idée qu'avec le progrès technologique, on arrivera toujours, c'est sans doute une promesse qui trouve ses limites. Évidemment, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais je voudrais d'abord vous faire écouter à ce sujet un court reportage de France Info sur cette question de la place de la géo-ingénierie dans le cadre du réchauffement climatique.
Kelly Wanser est experte en géo-ingénierie pour l'ONG Silver Lining. La géo-ingénierie, ce sont les techniques de manipulation du climat pour combattre le réchauffement climatique. Ouais, bon, c'est pas la première fois que les ingénieurs jouent aux apprentis sorciers. Kelly a étudié les techniques qu'on pourrait appliquer dans les 10 prochaines années. Parmi elles, le contrôle du rayonnement solaire atteignant la Terre. Aux Philippines, quand le mont Pinatubo est entré en éruption, il a lâché des tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère. C'était en 91. Et ces particules ont reflété la lumière du soleil vers l'espace. En 18 mois, la planète s'est refroidie de 0,5 degrés et la banquise arctique a gagné du terrain. Des chercheurs d'Harvard se sont inspirés de cette histoire et ont lancé le projet Scopex. Il est financé par Bill Gates, entre autres. L'idée, envoyer un ballon à haute altitude pour disperser des particules chimiques et voir comment elles affectent l'atmosphère. Mais Scopex est très controversé. Certains scientifiques prédisent des réactions en chaîne désastreuses, des ouragans, des sécheresses. Lizzie Burns, une des directrices du projet, comprend.
Notre idée est terrifiante, mais le changement climatique l'est aussi.
Seconde technique, éclaircir les nuages marins pour qu'ils reflètent mieux la lumière du soleil. Cette idée nous vient de l'ONG Silver Lining, justement, et de l'Université de Washington. Les chercheurs proposent d'utiliser des bateaux pour pulvériser des cristaux de sel marin vers les nuages.
ce qui permettrait de les modifier. Paye ton stérimar géant.
Alors Christian Depertuis, est-ce qu'il faut faire confiance aux ingénieurs pour nous aider à lutter contre le changement climatique? Ou bien est-ce qu'il faut être, au contraire, peut-être un petit peu prudent si l'on considère... Alors là, je vais encore me faire des ennemis chez les ingénieurs. J'avais fait une chronique à ce sujet il y a quelques temps. J'avais reçu un petit peu de courrier. Mais que c'est aussi l'ingénierie alors qui donne des solutions, mais qui a pu aggraver la question. Vous évoquez dans votre livre, Le tic-tac de l'horloge climatique, le cas d'un ingénieur, alors j'ai plus son nom en tête, mais qui est considéré comme peut-être la personne sur Terre qui a le plus contribué au réchauffement climatique, parce que il a travaillé à la fois dans les moteurs à essence ou diesel, je ne sais plus, et puis pour la marque Frigidaire.
Il a inventé les gaz les fréons, hein, dans les frigidaires, donc il est à l'origine effectivement du problème de la couche d'ozone. Alors, moi je pense que les questions de géo-ingénierie méritent d'être étudiées. Mais il ne faut absolument pas se leurrer. Ce n'est pas la géo-ingénierie qui va se substituer à la nature. On n'a pas de plan B, si vous voulez. Le problème
on
de
a
fond...
longtemps cru que ça serait le cas, hein, justement.
Non, il y avait on n'a pas de plan B, si vous voulez. Hein, on est sur une planète dans laquelle la vie se reproduit grâce à ce cycle du carbone, grâce à la capacité du milieu marin et du milieu naturel à stocker le CO2 atmosphérique et à le retransformer via la photosynthèse en plantes, puis en animaux, puis in fine nous sommes au bout de la chaîne alimentaire. C'est pas des techniques de géo-ingénierie qui vont se substituer à la nature. Et les premiers tests qu'on a faits, qui n'ont pas été cités du reste dans le reportage, qui consistait à déverser du sulfate de fer sur l'océan pour accroître sa capacité de stockage, ont produit des résultats extrêmement négatifs. C'est-à-dire qu'on s'est effectivement rendu compte que si en laboratoire on mettait du sulfate de fer sur de l'eau, on accroissait sa capacité de stockage du CO2, mais quand on a voulu faire ça à plus grande échelle, et on a fait des tests sur des zones plus larges, heureusement limité, on s'est aperçu que on déstabilisait complètement le fonctionnement de la biodiversité marine, voyez-vous. Bon, donc même si on peut à la marge améliorer ou renforcer la capacité de stockage du CO2 par des techniques artificielles de l'homme, l'homme ne va pas se substituer à la nature, si vous voulez. C'est un vieux fantasme, l'hubris, si vous voulez. Bon, déjà, les philosophes grecs nous disaient ça, vous voyez. Bon, et je pense qu'on n'a rien changé. Donc, de ce point de vue, ma position est extrêmement claire. Il faut laisser aux scientifiques le droit d'expérimenter, de réfléchir sur des technologies qui permettraient peut-être d'améliorer, de renforcer les capacités de stockage. Mais la priorité, c'est de maintenir et de renforcer les puits de carbone naturels, la capacité du milieu naturel à stocker le CO2. Si je fais un parallèle avec l'énergie, quelle est la différence entre une énergie éolienne ou une énergie photovoltaïque et l'énergie fossile? C'est que lorsqu'on utilise l'éolien ou le photovoltaïque, on est sur une énergie de flux. On ne fait que capter le flux d'énergie naturelle. Lorsqu'on est sur du fossile, on court-circuite le système naturel en réutilisant ce que la nature a mis des millions d'années à fossiliser dans le sol. Et on rejette tout ceci directement oui. Donc je pense que derrière la question du changement climatique se pose pour nos sociétés la question du rapport entre l'homme et la nature.
Sachant que cette nature, Christian Depertuis, elle est extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui à quel point une intervention sur les sous-sols, par exemple sur les océans, ça peut générer tout un tas de bouleversements. Et j'aimerais que vous nous parliez de la loutre de mer que vous évoquez voilà, dans votre livre, Le tic-tac de l'horloge climatique. Alors, c'est-à-dire comment cet animal, dont je ne suis même pas sûr de savoir à quoi il ressemble précisément...
Il y a une photo dedans.
Comment sa quasi disparition a pu bouleverser un écosystème beaucoup plus étendu, disons que...
Alors, la loutre de mer, c'est le plus petit mammifère marin. Et c'est un mammifère marin qui n'a pas de couche de graisse qui le protège du froid. Et donc, la conséquence, c'est que c'est le mammifère qui a la plus forte densité de poils dans sa fourrure. Donc, cette fourrure est intéressante pour les usages humains, notamment pour la confection de manteaux. La deuxième conséquence, c'est que comme cet animal a besoin de se lutter contre des conditions dures, il mange à peu près un quart de son poids tous les jours. La loutre de mer avait un peuplement originaire qui démarrait en Californie, qui remontait tout le long des côtes canadiennes, qui basculait de l'autre côté du Pacifique et qui arrivait de l'autre côté jusqu'au Japon et au bout de la Russie. La loutre de mer est probablement l'un des premiers mammifères qui a été promis à disparition, car très vite, les trappeurs, notamment les trappeurs russes, se sont rendus compte qu'il y avait un marché, et on a pratiquement, pas totalement détruit, mais on n'était pas loin de détruire la loutre de mer sur toute cette face, sur toutes les côtes pacifiques. La conséquence, c'est que lorsque la loutre de mer disparaît, les animaux qu'elle mange elle-même vont au contraire proliférer.
Oui, ça c'est logique.
Et la loutre de mer, son mets préféré, c'est l'oursin. Et donc une fois que la loutre de mer disparaît, l'oursin prolifère.
Et l'oursin, super, lui, ça, lui, à l'occasion des fêtes de Noël, on va pouvoir manger plus d'oursin.
Sauf que l'oursin mange des algues. Et les algues jouent un rôle majeur dans la capacité de stockage de l'océan, car les algues sont, comme les arbres, à l'origine de la photosynthèse océanique. Et donc, en détruisant la loutre de mer, on a effectivement multiplié les oursins et affaibli la capacité de stockage de l'océan en CO2. La Colombie-Britannique, qui est l'État, la province canadienne située totalement à l'ouest du Canada, a eu une politique très dynamique de repeuplement de la loutre de mer. Et ce repeuplement a relativement bien fonctionné. Je rentre pas dans les détails. Vous voyez bien que c'est pas un prix du carbone qui a fait ça. C'est effectivement une somme de régulation complexe, de protection du milieu marin, etc. Bon. Et on estime que aujourd'hui, la réimplantation de la loutre de mer le long des côtes de Colombie-Britannique compense à peu près de 15 à 20% la totalité des émissions de CO2 de la province. Donc vous avez un exemple qui montre à la fois le drame de ce qui se passe lorsqu'on affecte la capacité du milieu naturel à stocker le CO2, mais ça nous donne aussi des armes. Et ces armes, c'est que lorsqu'on arrive à recoupler des éléments du capital naturel pour jouer les bonnes complémentarités, on accroît la capacité du milieu naturel à stocker. Donc ça, c'est pour la partie océanique. Mais je voudrais dire deux mots, si vous m'y autorisez, sur la partie terrienne, mais vous ne m'autorisez pas.
Si, oui. Je vous y autorise, mais deux mots alors, du coup.
L'enjeu majeur sur la partie terrienne, souvent est posé en termes de forêt. Et on a tous l'idée, et elle est juste, que effectivement, les arbres captent la forêt, et lorsqu'on détruit les arbres, notamment via les incendies de forêt, on rejette du CO2. Mais pour protéger les arbres, la première des actions à mener concerne l'agriculture et l'élevage. Car partout dans le monde, aujourd'hui, lorsqu'on déforeste sous les tropiques, hier, sous les forêts tempérées, lorsqu'on a déforesté, le principal levier, le principal vecteur de déforestation, c'est l'extension des usages des sols pour l'agriculture et l'élevage. Donc la question alimentaire et la question climatique sont très directement rattachées via ce volet.
Il y a un dernier levier que je voudrais aborder avec vous, Christian de Pertuis, même s'il mériterait sans doute une émission entière, c'est celui des actions, si vous voulez, des actions en justice. Alors, on sait, l'an dernier, il y a eu cette pétition, l'affaire du siècle, avec un recours devant le tribunal administratif. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs une demande auprès des signataires de documenter le changement climatique. On verra bien comment aboutira ou pas ce recours. Mais il y en a un à peu près identique qui a été mené aux Pays-Bas, ça fait déjà quelques années, qui vient d'aboutir, puisque la Cour suprême néerlandaise a condamné l'État néerlandais. Elle exige que les Pays-Bas réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici 2020, c'est-à-dire d'ici l'année prochaine. Oui. Est-ce que ces actions-là vous semble être intéressante, ou en tout cas entrer dans le répertoire des actions intéressantes, possibles et nécessaires pour lutter contre le changement climatique, Christian de Pertuis?
Alors, d'abord, si vous voulez, on a la chance d'avoir des systèmes judiciaires qui existent. Il faut tout tenter. Hein, si vous voulez, c'est pas les économistes n'ont pas la clé unique pour avancer sur le changement climatique. Et mes collègues juristes, s'ils parviennent à utiliser des systèmes juridiques, c'est très bien. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'États dans lesquels les citoyens se retournent contre le gouvernement. C'est là où c'est nouveau. Hein. Jusqu'à présent, les actions étaient plutôt tournées vers des sociétés pétrolières, vers des sociétés charbonnières. Là, ce qui est nouveau, c'est que dans ces actions en justice, c'est le gouvernement, hein, l'État, qui est poursuivi. Alors, est-ce que ça permet d'accélérer les choses? Je prends le cas néerlandais que vous avez cité, qui est du reste dans l'ouvrage, hein, puisque avant que la Cour suprême ne confirme le jugement avait déjà été donné par le tribunal administratif de l'AE, si je me trompe. Bon. Moi, j'avais regardé le jugement, et le jugement disait effectivement il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2020. C'est-à-dire, hein, 2020, ça commence dans 8 jours. Bon. Et j'ai regardé le dernier point connu sur les émissions de gaz à effet de serre néerlandaises. Bon, on était à moins 17%. Ça veut dire qu'il faudrait en un an réduire les émissions de gaz à effet de serre de 8%. Si le tribunal de l'AE nous dit comment le faire, moi je suis preneur de la réponse.
Il peut y avoir une sanction qui est donnée. C'est-à-dire finalement quand on contrevient à la loi, on est sanctionné, même si la sanction ne permet peut-être pas totalement de réparer. Christian de Pertuis, non?
Oui, alors absolument. Le problème après, c'est de savoir quels sont, une fois que la sentence est donnée, quels sont les moyens d'action et quels sont les moyens de sanction. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'a décidé la Hollande, et je pense qu'il sera très difficile pour la Hollande de trouver une sanction à la hauteur du préjudice.
Il faudrait peut-être qu'il y ait un tribunal international climatique, mais on en est encore loin. Merci beaucoup Christian.
Merci à vous.
De Pertuis. Donc je rappelle, hein, le tic-tac de l'horloge climatique, c'est publié aux éditions De Beeck. J'avais oublié de préciser que la préface est signée par le grand climatologue Jean Jouzel.